RCN, écoutez le monde qui bouge.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN.
Cher public, bonsoir. Cette semaine, nous parlons de la fin d'un chapitre de M. Clint Eastwood et je vous laisse en apprécier la fin. Revenons au script d'Impitoyable comme on en parlait la semaine dernière. Il est réservé à Francis Ford Coppola, estampillé interne, ce qui signifie secret. Rose, qui voulait que Clint ait le projet, demande à une Lucie Fisher à l'époque que ça pourrait faire un très bon film pour Clint. Fisher acquiesça, mais personne ne pouvait prendre de décision et passer au-dessus des grands patrons. Coppola et les westerns, c'est pas son truc. Mais Rose a peur que Clint se désintéresse du projet à la longue. En plus, Clint, qui n'avait pas voulu être dirigé à l'époque par Coppola dans Apocalypse Now, refuserait d'être le nouveau dirigé par lui. Comme Megan Rose et Lucy Fisher ne pouvaient pas contourner le problème de Coppola, elles recommandèrent le scénario. Mais la réservation fut caduque. Et il se passa plusieurs années avant que Rose ne mentionne le projet à Clint. Ce ne fut que quand Rose eut la certitude que la Warner avait bien abandonné le projet, elle s'occupa elle-même du projet en appelant dans la foulée l'auteur David Webb Peoples afin d'obtenir confirmation de la disponibilité des droits. Elle évoqua le projet à Clint qu'en hiver 1984, juste avant Noël. Clint, qui partait comme chaque année au sport d'hiver dans sa maison de Sun Valley, Clint possédait une résidence secondaire à Sun Valley où il y passait des fêtes avec ses deux enfants. Clint passait son temps à skier et à faire des repas avec des amis du cinéma, des producteurs, des acteurs et d'autres. Comme d'habitude, Rose avait un petit cadeau à offrir à Clint. En général, à Noël, on offrait des paniers de fruits secs et du fromage. Clint, lui, n'offrait rien à personne, la radinerie au sommet de sa gloire. Mais le plus important, et lui donna le script du film à l'époque sous le nom de William Money Killings, en lui disant qu'il le lise, car il s'agissait d'un des meilleurs westerns qu'elle avait lu, en un mot, un film à Oscar. Clint savait que Rose avait un jugement précis à chaque fois et une lueur s'alluma dans ses yeux. Il tint le script en lui disant, se dirigea vers la sortie en plissant les yeux et lui rétorqua que si ce film ferait des Oscars, elle serait largement récompensée. On revient en arrière et vous allez entendre la bande-annonce française de Dirty Harry ou l'inspecteur Harry de 71.
À la ville de San Francisco. Je me ferai une joie de tuer une personne par jour jusqu'à ce que vous m'ayez donné $100,000. Sans réponse de votre part, j'aurai le grand plaisir de tuer un prêtre catholique ou un nègre. Scorpion.
Chef, qui est chargé de cette enquête?
L'inspecteur Callahan.
Alors, faites paraître dans le Chronicle. Nous sommes d'accord pour payer, mais il faut du temps pour réunir cette somme.
Vous traitez avec cet ignoble salopard?
Ça donne du temps pour prendre certaines mesures.
Et ça peut coûter la vie à quelqu'un. Laissez-moi m'occuper de cette ordure.
Oh non, pas question de ça. Ça risque un peu trop de finir en massacre.
Ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an.
Je le descends avant, c'est ma politique.
Je vous donne un nouvel adjoint. Voici Chico Gonzalez, il va travailler avec vous.
Maman, bonjour.
Dites, c'est une plaisanterie. C'est pas du gâteau de travailler avec un gars dans mon genre. Dites Sik est encore à l'hôpital avec une balle dans le ventre et Fanducci a été tué.
Mais alors?
Alors s'il faut à tout prix un adjoint, je m'en trouverai un qui sorte sans sa nourrice.
Une petite question, inspecteur. Pourquoi vous appelle-t-on Harry le charognard?
À cause d'un trait de caractère de notre ami. Il n'a pas de préférence.
Il déteste tout le monde, les Juifs, les Métèques, les Angliches, les Irlandais, les Négros, les Chintocs, les Japs. Faites votre choix.
Et qu'est-ce qu'il pense des Mexicains?
Il va vous le dire.
Les pires de tous les Métèques.
La patrouille volante a reçu un appel ce matin. Un objet suspect, trouvé à Golden Gate Park, s'est adressé au maire. Le labo vient de nous l'envoyer, il y avait cette lettre à l'intérieur.
Anne-Marie Deacon est enterrée vivante.
La pauvre gamine était allée au cinéma. Elle n'est pas rentrée chez elle hier soir.
Oui, ces fauchetons de la police de San Francisco m'ont forcé à faire ça. Alors aujourd'hui, c'est 200 000 en billets usagés, de 10 et 20 dollars. Si vous me jouez un tour, vous m'obligez à la laisser mourir d'asphyxie. Signé Scorpion.
Le dentiste l'a examiné. Il dit qu'elle a été arrachée avec des tenailles.
Vous savez bien qu'elle est morte.
On la trouvera en vie jusqu'à 3 heures. On doit aller lui porter le fric, vous vous en chargez?
Oui.
Un faux mouvement, n'importe quoi, je m'en fous. Je vous tue et je tue aussi la fille.
On démarre.
Oui, mais je vous connais pas, qui êtes-vous?
Ta gueule, sorcière, tu fais ce que je vais te dire, sinon ta cervelle se répand sur le volant.
Je sais à quoi tu penses, connard. Tu te demandes si j'ai tiré 6 balles ou 5 seulement. Avec tout ce bordel, je t'avoue que je n'ai pas très bien compté non plus. Mais c'est un Magnum 44, le calibre le plus puissant au monde, qui te videra la tête de toute ta cervelle. Alors t'as qu'une question à te poser. Tente ma chance ou non.
Revenons à Megan Rose qui connaît bien sûr Sondra Locke, et Megan ne se faisait pas d'illusions sur la relation cachée qu'elle avait avec Clint. Elle ne rêvait pas d'épouser Clint, mais elle avait la chance d'une relation unique. Clint a toujours été tendre avec Rose. Ils s'entendaient bien, Clint faisait tout pour que la personne soit à l'aise et se sente unique, disait Rose. Elle savait que quand Clint partait en tournage, il ne s'appelait pas ou ne s'écrivait pas, mais elle savait que quand il revenait, il viendrait automatiquement à elle. On peut dire qu'il n'était pas doué pour des scènes romantiques à l'écran, mais dans la vie, il était sincère et doux. Pour un instant, Rose lui disait « je t'aime » et lui répondait « moi aussi ». À l'époque, nous n'utilisions pas de moyens de contraception, mais Clint avait subi une vasectomie. Il ne pouvait et ne voulait plus avoir d'enfant. Rose eut de la chance de ne pas tomber enceinte car Clint a eu d'autres enfants, nous le savons, et c'est sûrement la pire vasectomie de toute l'histoire de la médecine. Rose ne fut pas dupe car elle savait que Clint était un coureur et qu'il n'avait bien sûr évidemment d'autres maîtresses, mais Rose s'en fichait. L'important à l'époque c'était de vivre l'instant présent, mais elle était fière d'être la petite amie du studio de la Warner. Mais Clint ne se faisait pas d'illusions de son côté, Rose lui donnait très bons conseils concernant ses scripts, elle lui apportait très bons desserts à l'heure du déjeuner, quand il n'était pas à l'extérieur, mais il se moquait souvent d'elle, c'était venu aux oreilles de Rose. D'après Fritz Mainz, son homme d'affaires qui voyait toutes les conquêtes de Clint au bureau, quand Clint voyait Rose, c'était toujours à son bureau dans le studio derrière, il ne l'invitait jamais nulle part. Il ne voulait pas qu'on la voie, évidemment, avec lui. Pour Clint, cette relation était un passe-temps plus qu'autre chose. Quand elle arrivait, il ricanait avant qu'elle entre au bureau. Mainz rigolait aussi parce qu'on était comme deux frères se racontant des conneries, mais à la longue, je trouvais ça très mesquin et ça ne me faisait plus rire à la fin. Je me suis rendu compte de suite que Clint faisait souffrir un autre être humain. J'ai mis beaucoup de temps à percuter ce genre d'acte suffisant. Mais Rose commença à comprendre ce manège quand elle crut être atteinte d'un cancer. Le producteur s'arrangea qu'un chauffeur l'amène et la ramène au studio de la Warner à l'hôpital. Mainz laissa penser à Rose que c'était Clint qui avait pris la décision. Vous allez entendre une archive de la RTS en 1992, une interview sur le film « Impitoyable ».
Pourquoi êtes-vous revenu au western? Est-ce par nostalgie en quelque sorte?
Non, pas vraiment. Enfin, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de western depuis mes débuts, et que c'est un genre cinématographique auquel je suis attaché. Mais ce western-ci traite d'un sujet auquel je tiens beaucoup et que j'avais en tête depuis 9 ans. C'est un sujet que j'avais mis de côté parce que je voulais faire le film au moment voulu. Il y a deux ans environ, enfin plutôt trois, je me suis dit qu'il était temps d'en tirer un scénario et de tourner le film.
Quand j'ai vu ce film avec ces trois hommes qui prétendent eux-mêmes être des tueurs, alors qu'il y a un jeune qui est presque aveugle, un deuxième type qui n'a même pas le courage de tirer, et vous qui êtes absolument imprévisible, j'ai plutôt eu l'impression que ce film était un anti-western.
Un peu, oui. Parce que l'histoire porte sur la tolérance de la violence. Dans beaucoup de westerns, on tire sur des gens anonymes et on les voit tomber du toit des maisons. Je l'ai fait moi-même. Mais cette fois, la violence est un aspect très important de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de beau ni d'héroïque. Ce film a un côté humoristique, bien sûr, mais il insiste surtout sur le fait que la violence n'est pas sans conséquences et qu'elle n'est pas une bonne chose.
Par ailleurs, vous avez dit que c'était un western parfait. Pourquoi ?
Non, ça m'étonnerait que j'aie dit ça. Objectivement, je ne suis pas en position de dire une chose pareille. Par contre, ce western soi-disant parfait pourrait bien être le dernier, ou l'un des derniers pour moi. Chaque fois qu'il y a un personnage qui essaie de construire le mythe ou la romance de l'Ouest, le reste de l'histoire et les autres personnages sont toujours là pour détruire ce mythe.
Pourquoi faut-il que la fin soit si choquante et si violente ?
L'homme a un tel sentiment de culpabilité pour tous les actes qu'il a commis par le passé que seul le souvenir de sa femme morte peut le convaincre qu'il est différent d'autrefois. Mais à la fin, quand son ami est tué et qu'il se sent coupable de l'avoir entraîné dans cette aventure, il trouve qu'il doit poursuivre une mission suicidaire. C'est sa façon de libérer les femmes et de se libérer lui-même.
Mais à la fin, il peut continuer à vivre.
Oui, j'espère.
Il y a donc une espèce d'injustice dans toute cette histoire.
Oui. D'ailleurs, le héros déclare lui-même que le fait de mériter de vivre n'a rien à voir là-dedans. Quand le personnage de Gene Hackman lui dit « On se retrouvera en enfer », il n'en doute pas une seconde parce qu'il a déjà été en enfer dans son délire lorsqu'il était malade.
Que ressentez-vous ? Comment réagissez-vous quand vous voyez des films violents ?
Ça dépend. Ça dépend comment la violence s'insère dans l'histoire. Mais j'en ai assez moi-même de toute cette violence, et c'est justement pour cette raison que j'ai voulu faire ce film. Je suis fatigué de tous ces films qui sont truffés de scènes de violence pour retenir l'attention du public. Je n'y crois pas. Je crois qu'on peut très bien captiver le public en lui racontant simplement une bonne histoire.
Et que pensez-vous de toute cette violence dans la rue, comme à Los Angeles, par exemple ?
Je pense que c'est une question très grave. Les gens tolèrent de plus en plus la violence dans la vie. Et c'est un très très gros problème. C'en est un pour moi, en tout cas. C'est aussi la raison pour laquelle je trouvais qu'il était temps de faire ce film. Nous qui formons la société, nous tolérons trop de choses. Et il semble que ce soit le cas dans le monde entier. Regardez ce qui se passe juste en ce moment à Sarajevo, par exemple.
Et vous ne voyez aucune relation entre les films violents et la réalité dans la rue ?
Si, il y a un rapport. C'est justement parce qu'il y a de la violence dans la rue que les gens font des films violents. Une chose est dépendante de l'autre, mais laquelle est à l'origine selon vous?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement?
Je voulais poser la question de la responsabilité. Est-ce que les films violents ne sont pas l'une des causes de la violence dans les villes?
Je ne pense pas que les films violents encouragent la violence dans la rue. Par contre, je suis persuadé que la tolérance du public face à des actes de violence dans la vie entraîne davantage de violence dans les films, parce que les gens essaient de reproduire ce qui se passe dans la réalité. Il y a des gens qui font des films violents parce qu'ils pensent que c'est divertissant, et d'autres pour d'autres raisons. Mais vous savez, la violence a toujours existé. Il n'y a qu'à se reporter à la Bible dans l'Ancien Testament. On y trouve les histoires les plus violentes de tous les temps.
Nous avons le bien et le mal en nous.
Oui, nous avons les deux tendances. Mais le tout est de savoir quand on dépasse les bornes et quand il est temps d'y réfléchir.
Pour finir, Sandra Locke n'était absolument pas au courant de ce qui se passait entre Clint et Rose. Un jour, elle croisa Rose à la sortie du bureau de Clint, et Clint présenta les deux femmes mutuellement, mais évidemment, Maynes disait qu'il avait attendu d'être en privé avec lui pour en parler et de se marrer sur le fait qu'il couchait avec les deux femmes. Locke et Clint étaient dans le jet de la Warner pour Sun Valley quand Clint se mit à lire le scénario. Quand il l'eut terminé, il le passa à Locke, qui le lit à son tour. Fritz Maynes, qui était dans l'avion avec eux et qui avait lu le scénario avant, ne le trouvait pas si bon que ça. Clint, à son arrivée, appela Megan Rose et lui annonça qu'il trouvait le scénario exceptionnel et qu'il n'avait jamais lu un script aussi parfait. Le script fut lu par bon nombre de personnes qui trouvèrent le scénario génial, mais Clint avait déjà Pale Rider dans les tiroirs, un autre western, et il ne voudrait pas en faire deux à la suite. Il allait donc garder pendant des années le scénario dans le tiroir. Vous allez entendre une interview intéressante de Sergio Leone pour son film et quelques pour dollars de plus sur RTS Média Suisse en 1988.
Alors le président n'est pas trop épuisé par les délibérations. On va parler tout à l'heure de ce festival d'Annecy consacré au cinéma italien. Mais ce que je voudrais d'abord, Sergio, ben c'est faire un petit retour dans le temps. Ça fait même plus de 20 ans.
Excuse-moi, nous sommes en train de tourner?
Oui.
Ah, je ne savais pas. Mais oui, tu parlais avec moi.
C'est la spontanéité, tu comprends.
Oui, d'accord.
Oui, Sergio, ça fait plus de 20 ans, puisque le film que nous allons passer, qui est un des très grands classiques et pour quelques dollars de plus, date de 1965. Ça fait donc 23 ans. Et quand tu regardes ça, là, avec le recul...
Moi, je les regarde toujours avec beaucoup de sympathie, ça veut dire, parce que mon opération s'est commencée... pas faisant des westerns. Je voulais faire qu'est-ce que j'ai fait après... Ça veut dire que je suis parti dans les westerns pour explorer un univers qui était à moi et je fais tape sous tape tous les escalations jusqu'à l'été info à l'Amérique.
Et au départ, quand tu as commencé avec ces westerns révolutionnaires, que d'ironie de la presse, western spaghetti, enfin c'était très péjoratif.
Mais vous savez... Moi, je ne crois pas que les Américains ont traité ça de péjoratif. Les Américains sont beaucoup plus banals de ce qu'on pense. Quand on parlait des western spaghetti, ils parlaient de western à l'italienne. C'est comme dire aujourd'hui, les spaghetti, c'est plus à la mode, c'est la pizza à la mode, vous voyez. C'est comme dire Pizza Connect ou tous les autres films qu'on a fait après. Quand on regarde l'Italie, on la regarde et on la voit à travers un voile, ou des spaghettis ou des pizzas. Moi, je croyais qu'il était plus subtil la chose, parce que j'ai pensé qu'il avait de l'humour. Alors, je disais peut-être qu'il veut dire que nous, Italiennes, à la place du lasso, nous avons un spaghetti pour prendre, et pour chasser, pour prendre quelque chose. Mais c'est pas ça. Et finalement, j'ai toujours rigolé à les mots spaghetti, surtout parce qu'il me plaît beaucoup.
C'était un immense succès, hein, très rapide.
C'est rapide, c'est très rapidement. Dans une poignée de dollars, il a fait le tour du monde dans 6 mois. 7 mois et il y a eu l'explosion totale.
Mais alors, ce qu'il y a de fou, c'est le nez, hein, comme on dit le nez pour détecter, parce qu'il y a M. Clint Eastwood, Lee Van Cleef et M. Gian Maria Volonté qui n'était pas encore, je pense, un intellectuel.
Il a touché pour tous les films à l'époque 1 million, moins qu'un figurante.
Oui. Et ils ont dit oui tout de suite, hein, c'est...
Oui, oui, on dit oui tout de suite, avec grand plaisir, parce que Clint, il était presque terminé. Il avait fait... Clint, quand il a commencé avec moi, il avait déjà 36 ans, 35, 36 ans. Et il venait d'un feuilleton américain, une série télévisive américaine, que ça passait depuis 12 ans à Los Angeles. Et il était presque à la fin de cette feuilleton. Alors, la carrière s'était presque terminée quand je l'ai repris de la main avec pour un poignet de dollars.
Je sais qu'en général, tu n'as pas une... Et pour quelques feuilles mortes de plus, c'est l'automne, oui. Je sais qu'en général, tu n'as pas une très grande passion pour les acteurs, à part De Niro, je crois, qui a été une très grande rencontre avec toi dans Il était une fois en Amérique. Alors, comment ils étaient ces trois-là, là, dans Et pour quelques dollars de plus?
Non, ils étaient formidables. C'est pas vrai que j'ai pas de passion. J'ai beaucoup de compassion pour eux. C'est une autre chose. Ça veut dire que... les acteurs, je les traite comme des garçons parce qu'ils sont finalement des garçons. Alors il faut les traiter avec beaucoup de tendresse, parce que quand même sont la première arme dans le film. Les acteurs, ça marche pas le film. Alors tous les trois, ils ont été fantastiques parce que c'était une découverte complètement nouveau. C'est pour la première fois Clint qu'il faisait vraiment un rôle de protagoniste, parce que dans les feuilletons où il jouait le deuxième rôle, c'était pas le protagoniste. Lee Van Cleef, il tournait presque plus, et s'était mis à peindre. Gian Maria, il doit encore commencer sa carrière, alors il était presque 3 anges.
Où est-ce qu'il a été tourné le film?
Le film, il est tourné en Italie, des intérieurs, et tout en Almeria.
En Espagne.
En Espagne, oui. Tu sais que moi, j'ai découvert l'Almeria, je suis été citoyenne
d'honneur.
Et l'Almeria, on a fait un film en Italie, un film documentaire d'1 heure, l'Almeria après et avant Leone.
Tu n'as pas l'intention d'en refaire de western un jour?
Peut-être. Si je le ferai peut-être avant de commencer cette grande aventure que je vais commencer.
Dont on parlera
J'espère
tout à l'heure.
J'espère qu'on parlera tout à l'heure. Mais si je le fais comme producteur. Ce n'est pas effectivement un film sur le western, mais c'est un film sur le west. Ça veut dire que sur le sud, surtout. C'est un film sur la guerre de sécession.
Eh bien, on regarde Et pour quelques dollars de plus de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Gian Maria Volonté. Et vous allez voir, ça n'a pas une ride.
Cher public, la semaine prochaine, nous changeons de chapitre de 1984 à 1986 au nom de l'âge mûr. Clint continue son aventure magnifique et nous parlerons de son prochain film, La Corde Raide ou Tightrope. N'oubliez pas d'aller écouter en podcast l'émission si vous l'avez prise en cours. Merci à tous, très belle semaine et portez-vous bien, comme dirait mon directeur d'antenne Yossi Ben Avraham.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout chaque mercredi à 19h sur RCN. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.